Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être avec l'église de Saint-Maur. Il y en a une qui m'a reconnu là-bas. Alors, on est très content avec Priscilla d'être avec vous cet après-midi et pouvoir partager la parole de Dieu et pouvoir partager avec vous donc la suite de cette série sur l'épître, la première épître de Pierre. Une épître qui est quand même formidable parce que quand on sait ce que les chrétiens ont vécu juste après cette épître, on se dit heureusement que Pierre avait écrit ce qu'il avait écrit. Quand il écrit, c'est le début hein, de la persécution, elle n'est pas encore violente comme sous le temps de Néron, mais il y a les moqueries, il y a le mépris, il y a le rejet. Et c'est très intéressant que Pierre, conscient de ce que les chrétiens sont en train de vivre et vont peut-être vivre, puisque il sentait que cela n'allait pas dans le bon sens, qu'il écrive cette lettre pour les encourager et vraiment les aider à regarder dans la bonne direction, poser leur regard au bon endroit et mettre les priorités là où elles sont. Et pour nous, en tant que chrétiens, même si on ne vit pas la même persécution qu'ils ont, il est bon de se rappeler qu'est-ce qui est l'essentiel dans la marche chrétienne. Et en particulier dans la souffrance, on vit toutes et tous des souffrances, mais eux, ils vivaient une souffrance en particulier parce qu'ils étaient chrétiens, rejetés. Et Pierre ici veut leur montrer que ils peuvent être encouragés, ils peuvent être fortifiés, ils peuvent garder l'espérance. Et donc vous avez vu hein, que Christ est un modèle important et majeur pour le chrétien, lui qui s'en remettait au juste juge, lui qui a souffert, lui qui a continué à faire le bien. Vous avez vu aussi qu'il a eu la victoire, qu'il aura rétribution. Et vous avez vu aussi que nos épreuves, en fait, nous fortifient au final, comme Pierre en parle au premier chapitre. Et il va continuer, donc là, il va continuer justement en particulier à cibler justement l'attitude que le chrétien doit avoir dans la souffrance. Et c'est vraiment encourageant pour nous, parce que vous pouvez souffrir, vous avez sûrement déjà souffert. Je connais beaucoup de personnes dans mon église qui ont été méprisées parce qu'ils sont chrétiens, certains ont été rejetés par leur famille parce qu'ils étaient chrétiens, d'autres sont considérés comme une secte, ils disent « mais qu'est-ce que tu fais dans cette secte ?» D'autres sont considérés comme des illuminés. C'est un peu spécial parce que tu penses qu'il y a encore Jésus, que voilà. Et d'une façon générale, je pense que tous les évangéliques en France, on est quand même une petite communauté un peu particulière. C'est pas tout le monde qui nous connaît. Certains nous traitent d'évangélistes. Les médias sont pas toujours favorables à notre égard. Et donc, je ne sais pas quel est l'impact pour vous. Est-ce que vous sentez touché dans votre identité? Mais ce texte veut nous encourager. Ce texte veut nous encourager, nous édifier et nous montrer l'attitude que nous devons avoir. Et ce qui est formidable, c'est quand on pense aux chrétiens à qui Pierre a écrit et aux chrétiens de cette époque-là, ils ont vécu, le texte le dit, la fournaise. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont tenu. Ils ont tenu au milieu de la fournaise. Quelques années après, il y a eu Néron qui a brûlé certains, crucifié d'autres, mis aux bêtes une partie. Et pourtant, au milieu de cette fournaise, les chrétiens ont tenu ferme, étaient heureux parce que grâce aux apôtres qui leur avaient laissé les bons messages, ils se sont enracinés dans la bonne direction. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous cet après-midi, qu'on puisse savoir où est-ce que le Seigneur veut que nous enracinions notre foi lorsqu'on est chrétien et en particulier lorsqu'on souffre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, que cette parole qui a été lue par Francis touche les cœurs, transforme les vies, renouvelle les esprits, encourage chacun et nous aide à nous émerveiller devant ta face. Tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais voir avec vous. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu les slides. Pardon. J'aimerais voir avec vous trois points. Trois points, on va voir ensemble d'abord l'encouragement que le Seigneur donne face à la souffrance à travers ce texte de l'apôtre Pierre. On va voir aussi qu'il y a un autre type de souffrance et ce n'est pas toutes les souffrances qui sont bonnes, pas toutes les souffrances qui sont adressées dans ce texte, c'est qu'il faut en être conscient. Et enfin, on va regarder ensemble la bonne attitude que le chrétien devrait avoir lorsqu'il traverse la souffrance. Tout d'abord, Pierre veut encourager, édifier, renouveler les chrétiens en leur rappelant que dans la souffrance, ils ne doivent pas se laisser abattre. Je ne sais pas comment vous vivez quand vous avez une souffrance qui vous arrive, mais en général, qui aime souffrir ? N'est-ce pas ? Personne. Personne n'est content de passer par la maladie, personne n'est content de passer par des souffrances psychologiques, morales, d'être rejeté. C'est pas quelque chose qu'on veut. Et d'ailleurs, notre monde tout entier fait tout pour que la souffrance soit bannie de notre vie, n'est-ce pas ? On essaye d'avancer, les technologies, etc., font tout pour que le confort de l'homme soit au maximum et que la souffrance soit au minimum. On fuit la souffrance. On fuit absolument la souffrance. La souffrance physique, évidemment, mais aussi la souffrance morale, le pas se sentir bien intérieurement. Et donc, autour de nous, on a un ensemble de choses qui nous montrent que l'homme n'aime pas la souffrance, et c'est normal, il la fuit et il veut même la faire disparaître. Merci. Mais alors là, les amis, c'est très intéressant comment l'apôtre Pierre va parler de la souffrance. Et j'aimerais qu'on puisse garder ça dans notre cœur, parce que nous aussi, naturellement, on fuit la souffrance. Nous aussi, on s'attriste de la souffrance quand elle nous atteint. Mais là, l'apôtre Pierre, quand il va nous parler, il va pas parler de la souffrance de la même manière que le monde en parle. Tout d'abord, il va leur dire, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Presque, hein, j'aimerais traduire ça avec nos mots, c'est normal. Ça devait arriver. Ne vous étonnez pas. Et c'est presque, c'était anticipé. On le sait, Jésus l'avait dit, Jésus l'avait annoncé. Le chrétien souffrira. Et il est vrai qu'il est bon de savoir que la souffrance fait partie de la normalité. En tout cas, aujourd'hui, dans ce monde déchu, de cette partie du ciel et de l'histoire humaine, la souffrance fait partie de la réalité. On n'aime pas quand la souffrance nous atteint, mais aujourd'hui, c'est une réalité normale de notre vie, en particulier quand on est croyant. Il est normal d'être rejeté, il est normal d'être méprisé, il est normal que les choses ne se passent pas toujours bien. Et je me rappelle avoir eu ce temps avec... On faisait de l'évangélisation, on faisait des cultes dans une maison de retraite, pas trop loin de notre église, et on a eu un accueil, mais plus que chaleureux. Là, la directrice adjointe était très contente de nous avoir, elle a dit « vous venez quand vous voulez ». L'animatrice qui a organisé le planning, elle disait « mais vous venez quand vous voulez, on est très content de vous avoir ». Et donc, les rencontres qu'on faisait avec quelques membres de l'église, ça se passait super bien, il y avait de tout le monde qui venait, des catholiques, des protestants, des athées, et on avait un temps merveilleux, et mois après mois. Puis, ce qui devait arriver arriva, on a commencé à nous critiquer, on a commencé à nous dire, mais oui, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un culte de louanges, de prières, etc. Après, on a un témoignage et une petite prédication. Et ensuite, on a un temps de gâteau. Donc, ça dure trois quarts d'heure le culte, et ensuite, trois quarts d'heure, une heure, les gâteaux. Et là, on commençait à parler dans notre dos, dans la résidence. Oui, ils amènent les gâteaux pour nous attirer. Et pour ensuite qu'on puisse venir, et c'est une façon de manipuler, etc. Le prêtre catholique qui venait aussi parfois, il n'était pas content non plus. Il a dit à la direction, bah, si vous voulez appeler quelqu'un, autant appeler ce pasteur charlatan évangéliste. Et donc on a commencé à être critiqués, et les personnes qui travaillaient avec nous commençaient à être un peu inquiètes. Mais je me suis dit, en fait, mais non, c'est normal. C'est normal. Et même, je me disais, c'est trop facile ce qui se passait au début. Où sont les difficultés ? Et quand les difficultés sont arrivées, ce texte était vraiment inscrit dans mon cœur, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. comme si c'est, waouh, Dieu a perdu le contrôle ou mince, l'attaque, l'ennemi est trop fort. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui vous atteint, qui sévit parmi vous, comme pour vous éprouver. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas étrange, c'est normal. Et c'est un encouragement pour tous ceux et toutes celles qui traversent la souffrance, qui sont méprisés, qui disent « Mais pourquoi pourtant ce que Jésus prêche est merveilleux? Pourquoi les gens ils me rejettent autant ?» C'est normal. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui éclaire ces personnes-là restent aveuglées et elles ne vous aimeront pas. Mais alors, au-delà de dire c'est normal, ne vous surprenez pas, face à la souffrance, rappelons-nous qu'on parle de la souffrance, donc quelque chose qui n'est pas agréable, hein, n'est-ce pas? Quelque chose qui est dur, difficile, éprouvant. Que ce soit la calomnie que les gens vont faire sur vous, que ce soit le rejet de ne pas vous donner des postes, que ce soit le mépris qu'on va voir quand on vous regarde, ou que ce soit le rejet que des groupes vont avoir vis-à-vis de vous. Non seulement l'apôtre Pierre va leur dire « ne soyez pas surpris », mais il va dire quelque chose d'encore plus interpellant. Et là est toute la force de la foi chrétienne. Il va leur dire « Réjouissez-vous. » Tu as la souffrance, réjouissez-vous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Alors là, les amis, il y a quelque chose quand même de fort, non? Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un souffre, quelqu'un est en train d'être méprisé, rejeté par sa famille, peut-être même frappé. Dans notre pays, des gens sont rejetés par leur famille, je pense que certains d'entre nous peut-être l'ont vécu, parce qu'ils viennent à Jésus, parce qu'ils quittent peut-être une tradition familiale, ils quittent une religion familiale, et ils disent « maintenant je veux suivre Jésus-Christ et je vais dans une église évangélique ». Certains sont rejetés. D'autres, quand on apprend ça, on ne les aime plus. Moi, je me rappelle de cette collègue, quand elle a su que j'étais évangélique, et on s'attendait bien, dès qu'elle a su qu'elle était évangélique, elle associait ça aux gens qui rejettent les homosexuels, et il y a eu de la colère en elle, alors que je n'avais rien fait de plus ou de moins. Mais c'est juste qu'elle a appris qui j'étais. Eh bien, l'apôtre Pierre dit « Réjouissez-vous ». Parce que vous êtes encore plus proche de Jésus-Christ à ce moment-là. Jésus-Christ, l'être parfait. Jésus-Christ, le meilleur, celui qu'on a partagé et chanté tout à l'heure. Qui est la personne par excellence sur cette terre, qui est l'image de Dieu par excellence. Eh bien, quand tu souffres, quand tu passes par des difficultés à cause du nom de Jésus, eh bien, tu es encore plus en communion avec lui. Tu grandis dans ta ressemblance à sa personne. Et vous l'avez vu dans les chapitres précédents, comme Christ, ayez comme exemple Jésus-Christ, gardez dans votre tête Jésus-Christ, lui qui a souffert, lui qui n'a pas mal agi. Eh bien, lorsque l'on souffre, le chrétien peut se réjouir parce qu'il grandit dans cette communion avec Jésus-Christ. Et cette communion n'est pas juste dans les souffrances, merci Seigneur, elle continue dans la gloire et dans la résurrection. Et un jour, toi et moi, si tu es en Jésus-Christ, nous serons ressuscités avec Christ et nous serons dans la gloire, unis à lui, entièrement. Réjouissez-vous. Et il continue, et il va même plus loin que juste l'activité de se réjouir, l'apôtre Pierre. Tu es dans la souffrance? Non, ne sois pas surpris. C'est normal. Mais non seulement ne sois pas surpris, mais réjouis-toi. Mais plus encore, il dit, tu es dans la souffrance, tu es en train de souffrir. J'aimerais te dire ce que tu es. Tu es heureux. C'est ton identité, c'est ta personne, c'est ce qui est en toi. Sois heureux. Alors les gens, ils vont se dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se fait que quelqu'un qui souffre, plutôt que le plaindre, le soutenir juste en disant « c'est tellement dur ce que tu vis, mais pauvre de toi !» Et c'est notre attitude normale quand quelqu'un souffre. Là, l'apôtre Pierre, il dit « non seulement sois pas surpris, réjouis-toi, tu es heureux !» Alors si quelqu'un est en train de souffrir, si vous lui dites ça, je pense pas qu'il le prendrait bien tout de suite. Mais c'est la réalité. Et il explique pourquoi, ici. au verset 14. Pardon. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Et là, il va te dire pourquoi tu es heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Il nous parle de notre identité, de notre nature même, de ce qu'il y a en toi et moi. Quand les choses autour de nous tombent, il est crucial de savoir qui nous sommes. Quand les choses autour de nous ne tiennent plus, que ce soit la santé, que ce soit les relations, que ce soit notre avenir professionnel, que ce soit nos études, que ce soit notre vie sentimentale, que ce soit même notre Église, il est crucial que le chrétien sache qui il est et quelle est sa nature. Lorsque les gens nous insultent ou nous découragent, on peut être touché par ce qu'ils vont dire de nous. Vous savez, hein, des gens qui vont dire « tu es un loser !» Et la personne, elle va se laisser pénétrer par cette parole. « Tu es un moins que rien !»« Tu es un pauvre !» Tu n'es pas intelligent, tu n'as rien compris. Et on peut se laisser toucher par ça, n'est-ce pas? Les paroles peuvent être plus blessantes que des coups parfois. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as reçu et que personne ne peut te l'enlever, alors quoi que l'on te dise, tu es heureux. Parce que cela ne bougera pas. Et le chrétien est appelé à se rappeler qu'il a l'esprit de Dieu, gloire en lui. Avons-nous-en conscience. Qu'il a l'esprit de Dieu lui-même, qu'il est l'habitation de Dieu en esprit. Et je ne sais pas si cela vous encourage et vous édifie, mais ça fait partie du cœur de notre marche avec Dieu. Aujourd'hui, notre société nous définit... Quand tu vois quelqu'un, tu vas le définir par sa couleur ou par son origine. Voilà. Dès qu'on me voit, on voit que je suis pas un Gaulois de France et que mes parents sont de quelque part d'autre que la métropole. On va te définir par ta couleur, donc de quelle origine, quel pays tu pourrais être. On va te définir aussi par ton métier. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon, je suis pasteur, je suis ingénieur, je suis étudiant. Oui, c'est lui. Mais est-ce que toi, tu te définis comme Dieu te définit? Quand en toi, il a mis son esprit. Et Pierre ici veut rappeler à ces chrétiens qui sont en train d'être méprisés, où leur identité dans la place qu'ils ont dans la société est en train d'être secouée, il est en train de leur rappeler, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce que vous avez reçu en vous. N'oubliez pas que Dieu lui-même habite en vous. Et non seulement en vous individuellement, mais aussi quand vous vous réunissez. Ça, c'est l'encouragement, les amis, que Pierre est en train de donner, que j'aimerais que vous et moi, nous puissions aussi prendre. Si vous êtes insultés, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et vous lui rendez gloire. Votre vie, les amis, a pour objectif de rendre gloire à Dieu. Et ça, c'est le meilleur objectif qu'on puisse avoir dans une vie. Être riche, bon. Représenter son pays, oui. Être en bonne santé, un jour ça se finira. Mais rendre gloire au Tout-Puissant, au Trois fois Saint, au Créateur du ciel et de la terre, par notre petite vie, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de plus magnifique. Et donc, quand tu vas au travail, quand tu vas dans tes études, quand tu es dans ta famille, rappelle-toi que la destinée de ta présence sur cette terre, c'est de rendre gloire à Dieu. Par tes actions, par tes paroles, par ton attitude, par tes pensées, par tes prières, par ton amour, par ton obéissance, par tout ce que tu es appelé à rendre gloire à Dieu. Et il n'y a rien, il n'y a aucune meilleure lettre de mission que cela. Et dernier point qu'il dira, par rapport à un encouragement pour les chrétiens qui sont malmenés, il leur dira, si vous souffrez, verset 16, parce que vous êtes chrétiens, n'en ayez pas honte. Au contraire, rendez gloire à Dieu dans cette situation. Et je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui en tant que chrétien. Est-ce que vous avez honte d'être chrétien? Est-ce que vous avez honte que les gens vous regardent comme différent? Est-ce que vous avez honte que les personnes voient que vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux, comme vous l'avez vu, je pense, la semaine dernière? Que vous ne pratiquez pas les mêmes choses? Que vous n'êtes peut-être pas aussi cool? Peut-être que vous regardez plus les clips MTV parce que vous estimez qu'ils vous souillent? Que vous vous connectez moins sur Facebook parce que vous voulez pas être chronophagé, laisser perdre du temps? Et donc vous vous retirez de certaines choses et les gens vous regardent différemment. Est-ce que vous en avez honte? Ben, la parole vous dit, non, n'en ayez pas honte, au contraire, rendez gloire à Dieu pour cela. Si vous êtes différent à cause de votre attitude, à cause de votre façon de penser en Jésus-Christ, à cause de votre parole, n'ayez pas honte. Au contraire, soyez-en fiers. Et je sais que pour des jeunes, c'est pas facile hein, de se retrouver dans un environnement où on sent que notre environnement nous pousse à différentes directions. Et moi, je me rappelle en tant que quand j'ai commencé mes études, mes copains, c'était clairement un des objectifs principaux, c'était être des Don Juan et coucher avec des filles. Et au début, j'avais honte parce que moi, j'avais fait je veux de chasteté et je le disais pas, n'est-ce pas? Quand tout le monde parle de « alors tiens, c'est qui ta copine? Alors t'as vu celle-là? » etc. Mais je me trompais en ayant honte, parce que je devais être fier de cela. Et quand le Seigneur m'a révélé que mes choix en Jésus-Christ étaient 10 000 fois plus solides que les choix de mes amis dans la débauche ou dans la recherche du plaisir spontané et temporaire, alors j'ai changé et ça les a interpellés. Et ils savaient que j'avais quelque chose de plus fort qu'eux. Soyez fiers d'être chrétien, d'avoir fait des choix de sainteté, d'avoir fait des choix d'amour. D'autres personnes dans mon église me partagent que certains de leurs collègues, quand quelqu'un leur fait du mal et que le chrétien dit « ben moi je veux le pardonner », ils lui disent « non mais tu devrais pas, fais-lui la misère, on sera avec toi ». T'as envie d'être entraîné là-dedans. Soyez fiers des choix que vous faites pour Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous et vous rendez gloire à celui qui mérite toute la gloire. Par contre, l'apôtre Pierre veut préciser quand même qu'on ne parle pas de n'importe quelle souffrance. Il dit oui, soyez heureux dans la souffrance quand vous êtes sans Jésus-Christ. Soyez, réjouissez-vous. N'ayez pas honte, mais il dit, mais attention, 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 c'est pas toutes les souffrances que vous devrez vous réjouir comme cela. Et il dira, au verset 15, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Toute souffrance, parfois, n'est pas une souffrance que Dieu honore. Il est possible que, et ça malheureusement je le sais, certains chrétiens soient des collègues très difficiles, n'est-ce pas? Impatients, impulsifs, et ensuite les gens les aiment pas trop et ils disent c'est parce que je suis chrétien qu'ils m'aiment pas. Ben non, sois plus patient avec tes collègues, sois plus bienveillant. Certains vont avoir... voir parfois le mal partout et vont oublier que leur attitude aussi peuvent avoir des conséquences normales de rejet parce que j'ai été méprisant. Et une petite anecdote pour montrer que parfois les chrétiens peuvent spiritualiser tout. Un pasteur qui nous racontait, il partait en week-end d'église et au week-end d'église, il pleut. Il pleut et donc ils peuvent pas faire les activités de dehors. Et là, il y a certains chrétiens qui disent « Ah, on a péché, on a quelque chose qu'on doit se reprocher, c'est pour ça qu'il pleut. » Et il y en a d'autres qui vont dire « Mais non, 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 c'est parce que Dieu veut éprouver notre foi et voir si on continuera à se réjouir. » Et là, il y a un monsieur du coin qui dit « Mais non, ici, il pleut toujours de toute façon. » Donc, il n'y a pas d'explication, est-ce que c'est une épreuve? Bah, c'est normal. Ça fait partie de la réalité normale. Et parfois, nos souffrances, c'est tout simplement parce qu'on s'est mal comporté. Alors Dieu dit attention à ce moment-là. Ce n'est pas le même type de souffrance. Et tu ne peux pas mettre ça en disant « Ah, c'est l'épreuve, ou c'est l'ennemi, ou c'est parce que je suis chrétien. » Peut-être c'est simplement parce que l'attitude qu'on a eue faisait que les gens ont mal réagi, ou même que la loi ou l'État nous reproche des choses. Et effectivement, certains chrétiens ont dû passer en jugement pour des attitudes mauvaises, pour ne pas avoir respecté la loi, ne pas avoir été juste dans la conduite, ou etc., etc. Et là, ce n'est pas la même souffrance. Ce n'est pas une souffrance qui honore Dieu. C'est une souffrance qui parfois est juste la juste rétribution de ce qu'on a mérité. Mais une deuxième souffrance qui est plus grave que juste une souffrance temporelle que le chrétien peut vivre. Et il en parle au verset 17. Il dira, les chrétiens souffrent sur cette terre et c'est normal. Et ça fait partie de leur lot. Mais imaginez que les chrétiens doivent souffrir comme ça. Quel sera le sort de ceux qui n'aiment pas Dieu ? Verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Il y a une souffrance, les amis, qui, après cette mort, après cette terre, est terrible. Et la parole de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, veut nous rappeler qu'elle existe. Elle veut nous avertir. Elle veut nous dire, il y aura quelque chose qui va arriver, où Dieu punira. Et cette souffrance que Dieu va infliger à ceux qui ont été loin de lui sera terrible. Regardez comment les chrétiens souffrent aujourd'hui. Eh bien, ça n'a rien à voir par rapport à ce que les non-croyants vont souffrir loin de lui. Et je ne sais pas dans quelles circonstances tu viens cet après-midi dans cette église. Es-tu exempt de la souffrance que Dieu va infliger, de la punition que Dieu va infliger à ceux qui l'ont désobéi? Et la seule façon d'en être exempt, c'est de venir à Jésus-Christ, celui qu'on a chanté tout à l'heure, et de croire qu'il est mort et qu'il a pris cette punition pour toi. De confesser tes fautes et d'accepter de désormais vivre pour Dieu. Parce que c'est le chemin que Dieu veut pour tout homme et toute femme. Mais si tu ne prends pas ce chemin, alors tu devras toi aussi subir la punition, la juste punition de tes actions. Et donc j'appelle, j'encourage, j'exhorte tout homme et toute femme dans cette salle à être convaincu que c'est le sang seul de Jésus-Christ qui le couvre et qu'il est pardonné de ses fautes et qu'il a cette assurance. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que toi et moi nous puissions être pardonnés et ne pas recevoir cette punition parce qu'il l'aura reçue à notre place. Deux types de souffrances. Pierre va terminer en encourageant à avoir une bonne réaction face à la souffrance. On l'a vu tout à l'heure, ne soyons pas surpris, on l'a vu, on peut se réjouir, on l'a vu, on est heureux, on a vu, on rend gloire à Dieu, on n'a pas à avoir honte. Mais alors, quand la fournaise est forte et que la souffrance est dure, que nos pensées, nos sentiments, nos émotions sont tellement torturés que nous arrivons peu à nous réjouir, que nous n'arrivons pas à ne pas avoir honte, que nous voyons l'oppression. Et je me rappelle de cette famille où la mère vraiment a rejeté sa fille parce qu'elle, donc je parle de quelqu'un en France, dans notre église française, la mère a rejeté la fille parce qu'elle venait à Jésus-Christ. Elle voulait plus la voir. Et forcément, en tant que fille, comment tu vis ça? Comment tu vis que ta mère te rejette? Pierre veut nous donner une exhortation puissante. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. La souffrance arrive et te frappe. L'épreuve arrive et t'atteint. Quelle qu'elle soit, premier réflexe, viens à Dieu. Ne te plains pas dans ta situation. ne t'épanche pas auprès de tout le monde en disant « Regardez ce que je souffre, regardez ce que je vis, regardez ce qu'ils m'ont fait » dans la plainte, mais reviens tout de suite à ton Dieu. Viens tout de suite à lui et remets-toi à lui. Et vous aviez lu récemment que Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il réagissait pas mal, il s'en remettait au juste juge. C'est notre premier réflexe, les amis. C'est notre premier réflexe. S'en remettre à Dieu, comme Jésus l'a fait. Mais quand s'en remettre à Dieu, c'est nous rappeler à qui nous en nous remettons, à qui on se remet. Si vous en remettez à moi, ben moi je vais pouvoir vous conseiller, vous dire des choses, etc. Mais j'ai des moyens limités. Mais on va s'en remettre au fidèle Créateur. On va s'en remettre à celui qui a créé le ciel et la terre. On va s'en remettre à celui qui maîtrise les lois de l'univers. Celui qui connaît l'avenir, qui est en train de dessiner le futur. C'est à lui que tu t'en remets. Que ce soit une réflexe pour nous de nous en remettre toujours, quelles que soient les circonstances, au fidèle Créateur et lui faire confiance. Et au milieu de la souffrance, Pierre nous appelle à continuer à faire le bien. Et c'est vrai hein, que je pense, quand on souffre, souvent on va s'autoriser des attitudes, n'est-ce pas ? Surtout quand on est marié, on voit que quand notre conjoint souffre, ben elle est moins patiente, il est moins patient. Il se rénerve plus facilement, plus vite. Et bien là, l'apôtre Pierre nous dit, continue à faire le bien, comme Jésus. Regardez le modèle de Jésus. Même quand il était sur la croix, vous vous rappelez, hein, on est en train de le clouer, il pensait encore à celui qui était à côté de lui. Il pensait encore à son salut. Quand on était en train de l'insulter, il pensait encore à Jean et à sa mère. Quand les hommes se satisfaisaient de le voir sur la croix, il pensait à leur pardon. Au milieu de la souffrance, continuons à faire le bien. Continuons à faire le bien. Et pour que ce soit possible, nous avons besoin de nous rappeler que Jésus-Christ vit en nous, que l'Esprit de gloire vit en nous, et que par cet Esprit de gloire, vous et moi, nous avons la capacité de rendre gloire à Dieu par nos attitudes. Et j'aimerais terminer avec cette histoire que nous connaissons, je pense, par cœur, qui est en Actes chapitre 5. Les versets 40 à 42. Vous vous rappelez de notre ami Pierre ? Notre ami Pierre, il dit le jour de la mort de Jésus, « Moi, je mourrai pour toi. » Hein ? Vous vous rappelez ça ? S'il le faut. Et le soir même. Ça, c'est, je trouve ça quand même hallucinant. Hein ? Pour vraiment avoir brisé ta parole, Pierre, il a fait parfait. « Je mourrai pour toi. » Et le soir même, une petite fille lui dit, « Mais je te reconnais, toi. T'étais pas avec Jésus. » « Mais non, je te dis, je n'étais pas avec Jésus. Je ne connais pas cet homme. » Hallucinant. Pierre, motivé, et il est tombé. « Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dira Jésus. » Et peut-être que vous, vous vous sentez dans cette situation, vous dites « Ouais, bien sûr que j'ai envie de servir Jésus, mais quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans la situation comme ça, c'est dur pour moi. » La différence entre Pierre avant et Pierre après, c'est la puissance de l'Esprit. Et c'est ce que je veux pour vous, c'est ce que je veux pour moi. Et voilà ce qu'il va dire au chapitre 5, verset 40. Donc il y a Pierre qui vient de se faire attraper avec Jean, et on les entend parler de Jésus encore alors qu'on leur avait déjà dit. Et voilà ce qui se passe, que le Sanhédrin, donc le conseil des anciens, conseil des sages de ce temps-là, il se retrouve devant Pierre, donc c'est l'autorité principale religieuse de la ville. Donc de quoi avoir peur pour un Pierre qui a eu peur devant une petite fille? Et voilà ce qu'ils disent, verset 40. Ils se rangèrent à son avis, donc de Gamaliel, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Pas sympa, hein? Vous imaginez, là, je me fais arrêter par des CRS, ils me frappent un peu et puis ils me disent « si tu reparles encore, attention ». Et la réaction des disciples, à ce moment-là, elle est juste énorme, les amis. Elle est juste hallucinante. Regardez ça, verset 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Tu viens de te faire frapper, tu viens de te faire menacer, tu viens de te faire humilier et il t'en ressort joyeux. Là est toute la puissance de la foi chrétienne. Quand on parle de la foi chrétienne, on ne parle pas de quelque chose qui va vous faire aller un peu mieux. On ne parle pas de quelque chose qui va vous faire passer du bon temps, de vous rendre plus heureux. On parle de quelque chose qui transforme radicalement votre vie et votre personne. Et que même la souffrance, vous la voyez comme une joie. Est-ce que c'est pas puissant ça, les amis? Est-ce que ça vaut pas le coup de mourir pour cette cause? Cette cause qui permet à quelqu'un qui était frappé, humilié, de se trouver joyeux. Et regardez la suite. On leur a dit, je te frappe, je te menace, et tu parles plus de Jésus. Hein. Et voilà leur réaction. Non seulement ils sont joyeux, mais verset 42, et chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Voilà l'évangile que vous servez. Voilà la dimension dans laquelle vous et moi nous sommes appelés à rentrer. Lorsque la souffrance te frappe, que tu aies la capacité de dire « mais je suis joyeux » et que tu aies la capacité à continuer à faire le bien même si les plus grandes menaces sont autour de toi. Chaque jour, il ne cessait pas d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. J'aimerais prier pour vous et moi que Dieu nous donne cette force et cette conviction, que Dieu nous aide à vivre cette plénitude de la relation avec Jésus-Christ. C'est vrai, comme Grâce l'a dit, pour que certains voient qu'on a changé, mais plus encore que juste le voir, que notre vie tout entière, dans nos attitudes, dans nos paroles, nos pensées, reflète la puissance de Jésus-Christ. Et c'est possible. Et cet après-midi, je vous encourage, ne souffrez pas à cause du mal que vous faites. Débarrassez-vous du mal. Débarrassez-vous de vous d'être un agitateur ou d'être un peu un voleur peut-être. Débarrassez-vous de cela parce que peut-être que la souffrance va vous atteindre, mais d'une mauvaise façon. Mais venez à Dieu, remettez-vous au juste juge. Acceptez son autorité sur votre vie et laissez-le vous remplir de l'Esprit Saint pour que vous puissiez vivre ce qu'il veut que vous viviez aujourd'hui. Je veux prier pour tous ceux et toutes celles qui viennent à Jésus cet après-midi et qui disent « Seigneur, je veux me remettre à toi, toi le fidèle Créateur, et je veux m'engager à faire le bien jusqu'au bout, par la puissance de ton Esprit qui me donne la capacité. Venons ensemble devant Jésus. » Seigneur notre Dieu, notre Roi, merci pour cette parole que tu nous accordes. Merci pour le privilège de pouvoir la lire, pouvoir l'étudier, pouvoir la comprendre et surtout pouvoir l'appliquer. Par la puissance de l'Esprit Saint, aide-nous à nous soumettre à toi, à nous en remettre à toi dans tous les domaines de notre vie, à placer notre confiance en toi, à ne plus craindre que les souffrances seront peut-être mal vécues, mais dire que oui, tu es au contrôle de toutes choses, toi qui as créé le ciel et la terre. Un problème financier n'est rien pour toi, un problème de relation n'est rien pour toi, un problème physique, tu sais le gérer, problème psychologique même, tu sais t'en occuper, et nous venons à toi et nous déposons nos fardeaux. Et nous te demandons de continuer à nous aider à faire le bien, à agir de la bonne façon, quelles que soient nos circonstances, à aimer notre prochain, à être patient envers l'autre, à aimer notre Église, à prier pour elle, à nous rapprocher des frères et des sœurs, à ne pas critiquer, à ne pas juger, à ne pas condamner. Aide chaque frère, chaque sœur qui vient cet après-midi à toi, à vivre pour toi, même s'il est dans la souffrance, que dans la souffrance, il trouve sa joie en toi, parce qu'il voit ce qu'il a reçu de toi. Merci parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus beau que d'être à tes côtés, Donne cette grâce à chaque frère, chaque sœur qui vient cet après-midi, humblement devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Amen.